C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On n'a pas tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Samedi 25 décembre, matin, vous ouvrez vos cadeaux, voici le nôtre, un film, le 11e de son auteur, un film de chair et pas un film de cerveau, dit-il. Bonjour tout le monde, joyeux Noël et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous et à toutes et joyeux Noël.
Un jour, il devait avoir 24 ans et découvre ce livre, La Complainte de Portnoy, de Philip Roth. Il dévore ensuite l'œuvre du romancier américain, dont il vient d'adapter un roman et enfin un film. Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour.
Tromperie, c'est son titre. Philippe, écrivain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, un refuge de confidence, de sexe, de littérature. Et Philippe recueille chacun des mots comme un trésor. Face à face, Denis Podalydès et Léa Seydoux. Celle qui ne joue pas un jeu enfantin dans l'histoire. C'est vous, l'épouse trompée. Bonjour Arnaud Grimbert.
Bonjour.
Heureux, nous le sommes, de vous retrouver dans ce film et de vous découvrir auteur de ce livre dans le cerveau des comédiens. Tromperie, le film sort mercredi prochain. Cette semaine, peu de sorties entre Louis Garrel, Madeleine Collins ou My Kid. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
J'en suis à un moment critique où je commence à penser à moi-même de façon différente. Tu sais, quand on s'arrête d'être une jeune fille pleine de vie, c'est une transition difficile pour une femme. Je sais pas bien expliquer.
Non. Écoute, si je ne t'ai pas appelé plus tôt, c'est parce que je ne voulais pas à nouveau perturber ta vie. Toi et ton mari, vous habitez toujours ensemble?
Oui, oui. On fait les choses décemment. Je n'arrête pas de me demander ces temps-ci où est le gros problème. Bien sûr, il y a des problèmes insolubles. Bon, la solitude. Je me sens affreusement solitaire parfois. Je m'ennuie dans mon travail. Mais tout de même, à part les gros problèmes, tout va bien.
Un document extrait d'un bonus, celui du DVD de Rois et Reines. Et déjà cette scène entre Emmanuel De Vos et vous, Arnaud Desplechin, tiré de Tromperie. Philippe et sa maîtresse, et 17 ans plus tard, le film. Je le disais, vous découvrez à 24 ans Philippe Roth. Comment décrire l'état dans lequel vous a mis cette lecture, cette découverte de Philippe Roth?
La lecture de Roth ou la lecture avec Emmanuel De Vos?
De Roth.
De Roth, c'est un éclat de rire. Un éclat de rire, bon, j'ai commencé pas par le plus sinistre, non. Par Portnoy. Et c'est un éclat de rire, et c'est un sentiment de libération, parce que, voyez-vous, je voyais qu'il se servait de lui. Il se servait de lui, et au lieu d'avoir un écrivain noble, j'avais un écrivain absolument ridicule, désastreux, atterrant, incroyablement comique, se moquant de lui, des autres, ne respectant plus rien. Et voilà. Et cette sauvagerie, comme ça, du rire, m'a libéré d'un esprit de sérieux qui pouvait être le mien, et m'a appris quelque chose qui me tenait très à cœur, c'est d'être à soi-même son propre matériel. C'est toujours quelque chose qui me revient souvent, mais que je redis avec plaisir, surtout en présence d'Anouk. C'est ce qui me sidère, c'est que les peintres ont des pinceaux, les musiciens ont des notes, mais les acteurs n'ont qu'eux-mêmes pour jouer. Et moi, par respect pour les acteurs, par admiration pour eux, par amour pour eux, j'aime bien être à moi-même mon propre matériel, comme eux-mêmes doivent l'être. Et c'est ça que Roth m'a appris.
Vous dites un écrivain disparaît derrière ses masques et un cinéaste aussi. Dites, chaque fois que je fais un film, je rêve que vous n'allez pas me reconnaître. Oui, vous êtes derrière plein de personnages de plein de vos films?
Ah bah oui, évidemment.
Ouais.
Évidemment. Je suis...
C'est oui, du vécu. Il y a du vécu beaucoup.
Bah dans,
il y a du vécu dans... de Plechin dans les films.
J'ai l'impression que c'est pareil qu'on joue, si on se sert pas de soin. Mais la question, est-ce que quand on joue, le personnage doit venir à nous, est-ce qu'on doit aller vers le personnage? Ça, c'est une question qui, à un moment, n'a plus de sens. Quand vous jouez, vous jouez. Vous savez plus très bien ce que vous offrez au personnage et ce que le personnage vous offre. Il y a une espèce de va-et-vient, et qui est l'état de jeu, et qui est un état de grâce. Et alors, dans Tromperie, ça m'a frappé particulièrement, parce que c'était les mots d'un autre, et pourtant, je me reconnais à chaque détour du film.
C'est marrant, je repense, je sais pas, à cette scène de la nuit américaine, où Jackie Bisset dit, vraiment, on parle d'un truc très intime au metteur en scène, Ferrand, et dont dont il va se resservir après dans la scène du lendemain, qu'elle découvre effarée à sa lecture. Est-ce que c'est un truc que vous avez fait, ça, déjà avec un acteur ou une actrice?
Non, ça pas. Je le ferai sans aucune si on me racontait quelque chose de tout à fait intéressant qui colle avec le personnage, je le mettrai immédiatement dans le film, bien sûr. Moi, j'en ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant.
Anouk Grimbert, vous aviez lu Philippe Roth avant de faire Tromperie?
J'avais lu Porte Noire,
oui,
il y a des années, et le livre dont s'est inspiré Arnaud, je l'ai pas lu. Arnaud voulait pas que je le lise parce que je crois que l'épouse dans le livre est plus noiraude ou plus typée, et je crois que t'avais plus envie que je sois libre de ça, quoi.
C'est le livre est plus grinçant, pas seulement sur un petit peu sur l'épouse, mais peu. Le livre est pas excusez-moi, c'est un mot anglais qui me vient, et pas nasty avec méchant avec l'épouse. Mais c'est un livre qui est beaucoup plus grinçant sur les questions. Et moi, j'ai pensé qu'au cinéma, c'était pas très intéressant d'être grinçant. J'ai adoré que dans le livre, j'ai l'impression qu'on peut faire des choses en littérature qu'on peut pas faire dans des films. Parce que ce serait venir embêter les spectateurs à un endroit. Ils sont captifs, ils sont dans une salle de cinéma. Et qu'il y a une forme de liberté. De la même manière que quand je lis, je suis libre. J'aime être libre quand je regarde un film et qu'on m'assène pas des choses. Donc la balance le trébuchet est plus fin, peut-être au cinéma, on a peut-être moins de liberté qu'en littérature.
Parce que, juste une parenthèse, mais la vraie femme de Roth était une comédienne, c'est Claire Bloom.
C'est Claire Bloom, bien sûr.
Ouais, qui a eu une vie assez étonnante d'ailleurs, et qui après.
Et qui a écrit un livre sur Philippe Roth qui s'appelle Leaving the Dollhouse, que j'ai lu.
Ouais.
Le grinçant du livre, vous le retrouvez peut-être dans le film avec une scène de procès, où là, effectivement, l'écrivain est malmené par un procureur.
Sadia Ben Taïeb.
Voilà, c'est ça. Et là, on retrouve cette veine très très acide, quoi.
Bien sûr.
De mise en cause de l'écrivain lui-même dans son propre livre, donc quelque part du metteur en scène, bien entendu.
Oui, c'est ce que j'adore. C'était un moment très délicieux. L'écrivain se revoit accusé dans un tribunal. Alors, il est entouré que de femmes. Alors, il y avait la juge qui était jouée par Frédéric Giffard, qui est une avocate de renom, et l'actrice surtout qui jouait la procureure, c'est Sadia Ben Taïeb. Et alors, les deux me posaient la question, Denis et Sadia, en me disant, mais alors, est-ce que c'est l'écrivain qui a raison et la procureure qui a tort? Je n'aimais pas du tout. Le problème, c'est qu'ils ont tous les deux raison, mais vu avec deux prismes différents. Et puis, peu à peu, toutes les figurantes ont commencé à rigoler ou à houspiller comme ça l'écrivain, et la scène a pris une tournure comique, et qui en même temps est très vraie, qui est très actuelle et très contemporaine, et j'espère pas grinçante, mais plutôt qu'il y a un éclat de rire, très libérateur.
Il y avait quand même une petite peur par rapport à tout ce qui se passe autour des femmes, voyez, le mouvement MeToo, etc., par rapport à cette scène de vous dites c'est drôle, c'est léger, mais vous aviez peur que ça soit pas trop bien perçu.
Bien sûr qu'on a peur, et en même temps, je me dis, ce serait franchement dommage de pas voir à quel point MeToo, ça rapporte du rire aussi. Évidemment que c'est une bonne nouvelle, mais évidemment que c'est drôle. C'est drôle que les hommes s'arrivent pas avec les femmes, que les femmes s'arrivent pas avec les hommes, qu'on se dispute et tout ça, qu'il y ait des nouvelles voix qui se fassent entendre, que ça grince, que ça colère, qu'il y ait de la plus de liberté, évidemment, et que les hommes accusés rechignent et que les femmes persistent, etc. Bien sûr que ça provoque quelque chose qui est drôle. C'est drôle aussi parce qu'il y a quelque chose qui est très intime, qui est la question de l'amour, qui est la question des relations sexuelles, qui est au plus intime, donc c'est troublant. Et alors, se retrouver tous derrière une banderole en disant, je ne suis pas troublé, alors que là, évidemment que la vie est troublante, il y a quelque chose de drôle. Vous voyez, c'est pas du tout une critique ou une distance que je pourrais prendre par rapport à un mouvement qui était évidemment un courant d'air, qui est toujours un courant d'air extrêmement nécessaire dans la société.
Vous voulez entendre Philippe Roth?
Ah bah oui.
Les premières pages que j'écris sont laborieuses et je recommence. Est-ce que je vais pouvoir écrire un nouveau roman? D'où mon prochain livre va-t-il bien pouvoir sortir? Dès que vous commencez, vous vous dites, c'est une horreur, il faut faire autre chose. Je suis à nouveau complètement perdu. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je suis censé faire? Quand faut-il lever le rideau? À quel moment ouvrir le rideau pour commencer à raconter l'histoire? J'ai acquis à grand-peine la liberté d'écrire sur ce que je connais, mais ça ne suffit pas. Si vous ne faites qu'aligner des petites histoires qui vous sont arrivées, à vous, ou à vos amis, ou à votre femme, ou comment elle vous a rencontré, vous ne serez jamais un romancier.
Tout est dit.
J'adore. Qui se sert de lui, mais oui. Qu'il faut inventer une vie qui est beaucoup plus grande que la vie, sinon ça sert à rien.
C'est exactement au cinéma, Arnaud Desplechin.
Bah, j'aime bien raconter des gens qui sont plus grands que moi. Donc, voilà, et puis j'aime bien filmer des gens qui sont plus grands que moi, et c'est ce qui me plaît.
Tromperie, Londres, 1987. Philippe, un écrivain donc américain en exil à Londres, et sa maîtresse anglaise, mariée de son côté, vient le retrouver régulièrement dans son bureau.
Tu sais, il y a longtemps, quand j'habitais à la campagne, avant que je passe beaucoup de temps en ville, j'étais si simple. Et à force de lutter, ça meurt. J'étais extrêmement amusante dans le temps.
Moi, j'aime comme tu es maintenant. Ah, dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse?
Non, il l'a déjà fait.
Oh. Et alors?
Bah, j'ai dit la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge.
Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai dit, j'ai attrapé ce bleu au cours d'une étreinte ardente avec un écrivain au chômage dans un appartement sans ascenseur de Nottingham.
Et alors?
Ben, ça paraît idiot et tout le monde rigole.
Et tu entretiens l'illusion que tu es une honnête femme.
Parfaitement.
Arnaud Desplechin a installé deux comédiens dans un lieu et faire du cinéma avec ça, je pense aussi aux scènes entre Anouk Grimbert et Denis Podalydès. C'est un sacré enjeu, ça aussi.
Ah, j'en étais vraiment terrifié. C'est-à-dire, je crois que j'ai préparé sérieusement le film, et pour autant, il y a quelque chose comme 2 semaines avant le début du tournage, je me suis dit, mon Dieu, je dois avoir entre Léa et Denis quelque chose comme 61 scènes dans un appartement avec un homme qui parle et une femme qui parle. Les spectateurs vont s'ennuyer, ça va être à périr. Vous voyez, il faut que je trouve des solutions. Alors, on avait trouvé des solutions, mais alors faut faire feu de tout bois, quoi. Dans la disposition des acteurs dans l'espace, dans les changements, des petits changements qui se passent dans le costume, dans les décors, tout d'un coup, voilà, qui sont au pub et puis dans l'appartement et puis dans des espèces de lieux de rendez-vous, puisque c'est un film d'époque, donc il n'y a pas encore les téléphones portables. Donc il faut aller dans des cafés pour téléphoner, etc. Et puis voilà, qu'ils sont dans un parc, parce qu'il y a un secret qu'elle peut dire et qu'elle ne saurait dire à l'intérieur de l'appartement. Et puis on se déplace de la cuisine ou la salle de bain. Et donc il fallait trouver toutes les variantes. Il neige, il fait du soleil, il y a les saisons qui passent. Et donc ce que je tenais, c'était à faire un film qui soit sensuel et qui soit un peu élégiaque. Et donc il y a le passage des saisons qui se passe et qui vient rythmer l'histoire d'amour qui se délite peu à peu.
Justement, il y a l'érotisme des mots qui est absolument dingue aussi. Hein. Il y a des scènes, effectivement, sous les draps, on entend le bruit des draps, etc. Mais c'est un peu comme Hitchcock tourner une scène d'amour comme une scène de dialogue et l'inverse. Quoi. Enfin, je veux dire, tout se mélange. C'est, le sexe est excitant, mais les mots sont excitants avant ou après sexe.
Bien sûr, c'est des conversations... Avant et après, il y a un pendant qu'on voit, il y a une extase comme ça. On a un 25 décembre, donc c'est une extase comme une nuit de Noël, vous voyez, tout d'un coup sous la neige, le miracle des orgasmes partagés arrive comme ça. Et pour autant, c'est plutôt sur la conversation, c'est comment... J'ai l'impression que le film, c'est aussi... cet écrivain, il écoute, il est à l'écoute des gens. Vous disiez, alors, il les pille. Oui, il les pille, mais il les écoute. Et en les écoutant, j'ai l'impression que chacun, d'une façon plus ou moins heureuse, chacune des femmes rencontrées se reconstruit, ou s'invente, ou fait le bilan de là où elle en est. Et il fait très attention à la singularité de chacune de ces femmes. Alors, c'est pas un gentil, c'est pas un tendre, hein. Et pour autant, il est passionné par ces femmes qui l'entourent, chacune, et il l'écoute. Et à travers la voix douloureuse de l'épouse, la voix douloureuse de l'amante, la voix douloureuse de Rosalie Nichols, Emmanuel De Vos qui se meurt à l'hôpital, ou de cette jeune femme tchèque réfugiée, ou de l'étudiante jouée par Rebecca Marda, ben, à chaque fois il les écoute, il y a cette attention portée à chaque femme.
Arnaud Grimbert, il est comment, Arnaud Desplechin, sur un plateau en... Est-ce qu'on peut parler de direction d'acteur, d'accompagnement, de quoi?
Il est... absolument magnétique. C'est-à-dire que c'est comme il vous aimante, il vous attire vers jouer et vers entrer dans des tumultes d'émotions. Il fait ça avec une immense douceur, avec beaucoup de modestie, beaucoup d'exigence aussi. Moi, je me souviens qu'on avait commencé à tourner ces scènes et on l'avait plus ou moins bien fait. Mais le soir, on a reçu Denis Podalydès et moi un mail où Arnaud nous disait, en fait, on n'a rien fait. Et il disait, ce qui est l'élégance même. Il disait, c'est de ma faute, j'avais le trac. Maintenant, on va y aller. Je sais pas où on va, mais il faut y aller. Et là où on va, on sait pas ce que c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on y est, ben on est dans la tempête et on n'a pas peur des vagues. Alors il est rigolo Arnaud parce que c'était par exemple une scène très tumultueuse, oui, de larmes, de bon, et en général les metteurs en scène au bout de 2-3 prises ils vous considèrent avec ils considèrent qu'il faut s'arrêter, quoi, qu'on peut plus. Bon, Arnaud pas du tout. On y a passé la journée entière et il y avait aucune exploitation pour autant. C'était c'est comme si il savait que c'est pas parce qu'on est ému que c'est bien. Il faut y aller, s'enfoncer et travailler précisément, à la fois précisément et dans la folie de l'inconnu et du partage, parce qu'on joue ensemble, quoi. Denis et moi, on jouait vraiment ensemble.
Oui, au cas...
On joue ensemble qu'on ne joue plus ensemble. C'est ça qui est...
Ah ouais, c'est très beau comme formule, ça. Très beau. D'ailleurs, vous dites, quand on vous demandait combien de jours vous avez tourné, vous avez dit combien? Vous avez dit...
J'ai dit à peu près 28 en ressenti, vu le taux d'humidité. mais en réalité, 2 jours. Mais en même temps, Arnaud, il a aussi ça que... je ne sais pas si c'est passé par les mots ou par, ou par un microclimat... mais il vous, en même temps qu'il vous engage pour son film, il vous demande d'engager en vous des souvenirs, des je sais pas quoi, des c'est ce que t'appelais le vécu au début de l'émission, mais qui dépasse de très loin la biographie, notre biographie qui est tout ce qu'on trimballe et qui n'est pas forcément qu'à soi, qui est aux autres et tout ça. Donc moi je sais que quand je suis arrivée pour tourner ça, je suis arrivée avec un barda de chagrin, de vieux chagrin d'enfant, d'abandon, de machin. Et c'est pas lourd, c'est pas des... Pour un acteur, ces sacs-là sont pas lourds à porter, c'est notre petit... C'est notre sac à dos, quoi. Mais donc, j'ai tourné en réalité 2 jours, mais il y avait 30 ans de vie qui étaient là, à disposition d'Arnaud, quoi. Et de moi.
Au cœur de ce film, donc, de Denis Podalydès, qu'on n'avait jamais vu dans un rôle aussi sexy au cinéma, nous l'avons joint cette semaine.
Je sais rien de toi. Bien sûr, je sais quelques petites choses, à force de lire tes livres, mais...
Je suis censée croire que cette anglaise n'existe pas.
Pourquoi ça ne te suffit pas?
Pourquoi ton mari ne te suffit-il pas? Vous couchez encore ensemble?
J'aurais parié que tu me poserais cette question.
J'aime savoir ce qui se passe dans ta tête.
Mais j'ai pas l'intention d'y répondre.
Je crois que j'avais jamais joué un rôle comme ça. Donc, le premier réflexe, c'est va-t-on être à la hauteur? Est-ce que je vais pas décevoir le metteur en scène et puis passer à côté? Donc, c'est ça, c'est une peur de mal faire. C'est ça, c'est pas une peur. Je pense que c'est une peur pusillanime. C'est la peur du manque d'habitude de ce genre de rôle. Et peut-être, d'ailleurs, c'était bien que je n'ai pas l'habitude de ce genre de rôle. Ça, je ne sais pas. Pas moi de le dire.
Et pour incarner cet écrivain américain, vous avez maigri et vous, chaque jour, vous aviez des gros sourcils supplémentaires.
Oui, Arnaud, quand on s'était vu au café, m'a dit 2 choses. Il m'avait dit, Philippe n'est pas gentil.
Oui.
Et... pas bonhomme, pas forcément sympathique. Et il est sec. Voilà. Alors j'en ai déduit qu'il fallait que je perde quelques kilos. Et je crois que c'était ce que me demandait tout simplement Arnaud. Et puis c'est ces deux, je suis parti sur ces deux viatiques. Et puis ensuite, c'est la confiance totale envers le metteur en scène et les partenaires. Acteurs, actrices et techniciens aussi. L'équipe a été très très soudée sur ce tournage, très, très présente, très forte.
Comment il est des pleuchins sur un plateau?
Il était magnifique de drôlerie, d'enfance, d'acuité aussi, d'extrême capacité d'écoute. Je pense qu'il nous a dirigés en nous écoutant. La force de son écoute était telle, et de son regard, écoute et oreille, c'est un grand cinéaste, ça va totalement de pair, c'est la même chose à vrai dire. Il est une antenne réceptive et émettrice, l'état... Donc c'était ça, et tout ça dans une... je dirais même une gentillesse, qui n'est pas toujours une qualité qu'on trouve éminente chez les réalisateurs, les réalisatrices, et bien ici, dans une générosité envers tous, envers ceux qui jouaient et envers ceux qui œuvraient. Donc j'ai vraiment un souvenir comme ça d'être tous plongés dans ce grand laboratoire et de tous œuvrer, d'avoir su fédérer cette équipe, faire que chacun se sente tout à fait à sa place, tout à fait requis, et qu'on soit à l'écoute des mots et des situations qui émergeaient de ce scénario.
Dernière question, vous avez une grande scène avec votre femme, avec la femme légitime de Philippe Roth, qui est à nous Grimbert, elle est avec nous. C'était comment alors, ça s'est passé comment cette grande scène?
La femme trompée.
C'était extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus grands souvenirs de tournage. On était dans cette grande et très belle maison, tout à fait en Angleterre. Arnaud a réussi à tout à fait me persuader que c'était un juif américain qui vivait en Angleterre, dans cette maison, avec ma femme Claire. Et je crois qu'on a tourné cette grande scène sur 2 jours, peut-être 3. Et c'était un autre film dans le film. Peut-être d'ailleurs chacune des scènes avait cette force-là de me faire commencer et terminer un film dans le film. Un des plus grandes jouissances de jeu. Parce que Anouk, d'emblée, a mis la barre si haut dans l'interprétation, dans la faculté d'écoute aussi. Je crois que tout le film raconte ça, comment on s'écoute les uns les autres de tout notre corps. Et comment ça crée des drames, des tragédies, d'être aussi poreux à l'autre, d'être aussi habité par celui qui vous parle. Et donc j'ai eu l'impression que c'était 20 ans de mariage avec Anouk, que je croyais tout à fait à cette situation-là. Et elle a été absolument... c'était un comme tout le tournage d'ailleurs, mais... Anouk l'a portée, je ne sais pas. Moi, je la trouvais déchirante. Il y a un moment où elle s'endormait. On se disait je t'aime, de manière à la fois complètement coutumière et totalement habitée. Et cet amour, dans le moindre détail, dans le moindre souffle, coexistait aussi avec un combat impitoyable à main nue où chacun défend son droit, son être. Moi, défendre mon droit de romancier. Mon droit à me compromettre dans mon œuvre. En plus, c'est une scène qui, même et dans l'intimité, parle tout à fait de l'art, des règles de l'art, de ce qu'est un écrivain, de ce que ça implique de vivre avec un écrivain. Je crois que la scène a une force générale et en même temps tout à fait intime.
Je suis censée croire que cette Anglaise n'existe pas. Explique-moi comment tu sais toutes ces choses sur la vie en Angleterre que cette femme imaginaire te raconte.
Et c'est mon métier de donner l'impression que je connais des choses.
Mais c'est tellement intime.
Mais l'intimité, c'est intéressant. C'est un sujet.
T'as l'intention de publier ce carnet?
Je sais pas. L'idée m'a effleuré.
Le publier tel quel?
J'ai dit que je savais pas.
Tu crois pas qu'il pourrait être judicieux de retirer ton nom? Philippe Passemal Cendré, tu changerais ça en Nathan?
Non. Non. Nathan Zuckerman, c'est mon personnage de roman, là c'est tout autre chose. Ce carnet, c'est moi.
Tu viens de me dire que c'était pas toi.
Non, c'est moi qui imagine, c'est l'histoire d'une imagination.
Et si c'est publié, les gens iront pas savoir que c'est l'histoire d'une imagination.
Bon, alors quand j'écris de la fiction, on me dit que c'est de l'autobiographie. J'écris de l'autobiographie, on me dit que c'est de la fiction. Oh, parce que je suis tellement crétin et qu'ils sont tellement intelligents, alors qu'ils décident, eux, de la nature de ce que j'écris.
C'est un jeu très amusant. Et moi, si ça m'humiliait.
C'est un jeu. Je me parodie moi-même. Je me ventriloquise. C'est homo ludens.
Qui le saura à part nous?
Quel dialogue, Arnaud Péchin. Quels acteurs, hein?
Ouais, quels acteurs.
Vous dites, quand j'ai rencontré Anouk Grimbert, dont j'avais suivi le travail au théâtre et à la télévision, j'ai eu la sensation étrange de la retrouver enfin.
Ben oui, parce que ça fait quand même un moment que j'en rêvais, donc j'arrive bien tard, donc c'est enfin, quoi, bien sûr, je me souviens de l'émotion quand on s'est retrouvés dans le 5e arrondissement, pour lire, j'étais très impressionné, mais c'est comme c'est d'aucune utilité pour les acteurs que je sois impressionné, il fallait que je le déguise, et bien sûr, je l'étais tout autant que Denis le fut... Parce que, comme il le dit très bien, elle plaçait la barre très très haut. Quoi. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression que tu étais arrivé chargé de le jour du tournage. Quand on s'est rencontrés, c'était très libre, comme un enfin on se parle. Et le jour du tournage, tu t'es arrivé avec énormément de matériel et j'avais une telle gratitude de tout ce que tu avais pu apporter et j'ai l'impression que c'est la scène avec l'épouse, on ne savait pas vers où on allait. Est-ce que c'était une scène drôle, une scène triste? C'est comme la scène du tribunal. La scène du tribunal aurait pu être beaucoup plus violente. Il se trouve que la vis comica était la meilleure façon de dire ce qu'il y avait à dire. Et quand tu es arrivé le matin, je ne sais pas si ça pleurait, si ça s'engueulerait, si ça... Comment faire pour rendre justice à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre?
Mais tu dis que je suis arrivée avec du matériel. En fait, mon principal matériel, c'était le désir d'entrer dans ton monde, le désir si grand. C'est, dans la vie, il y a plein de gens qu'on ne peut pas rencontrer dans la vie, alors qu'on en rêve. Et dans notre métier, on a une chance incroyable, c'est qu'il y a des gens dont on rêve de partager un bout de vie, et à un moment, ça va se passer. Et même si c'est court... Je vous dis, en temps vécu, en temps ressenti, c'est une vie, je l'ai vécu, je l'ai eu, quoi. Et après, je suis arrivée avec du matériel, mais peu, parce que je savais de toute façon que tu allais me le casser. Je savais que tu me demanderais, je savais, sans savoir, mais je me disais, cet homme-là, il est vraiment de qualité et il voudra des choses que j'ai pas prévues. Par contre, il y a une chose qui nous est arrivée à tous les deux, c'est que il m'incombait de jouer une femme jalouse. Or, je t'avais prévenu que je n'étais pas jalouse. C'est un sentiment que je ne connais pas, sauf peut-être, je vais faire un grand aveu, je suis peut-être jalouse de tes autres actrices, mais je suis jamais jalouse en amour. Jamais, ça m'est pas arrivé, bon, c'est comme ça. Et quand je t'ai dit, je t'ai dit, honnêtement, peut-être tu te trompes de casting, parce que la jalousie, je connais pas, tu m'as dit, c'est bien. Ce que tu me dis là, ça va être un cadeau pour le film, et il y aura pas de poncif. Et c'est vrai que, en fait, quand on est une femme, trompée, ça peut ne pas être un immense malheur. L'immense malheur, c'est qu'on vous dise plus la vérité. Ça veut dire que, parce que ne plus recevoir de caresses, mon Dieu, ça arrive. Voilà. Par contre, ne plus être digne de qu'on vous dise la vérité, alors ça veut dire qu'il y a vraiment plus aucun érotisme. Et que le domaine du partageable a maigri, à tel point qu'on n'est plus que des, qu'on est une association sociale. Et je savais aussi que j'imaginais, comme ça, te connaissant mal, mais j'imaginais que tu voulais pas non plus filmer une association sociale et qu'il fallait quand même que ces gens-là, le mari et la femme, continuent de s'aimer et de se parler malgré le gouffre de vérité, malgré la privation. Ils se touchent plus, en fait, mentalement, quoi. Vous aviez raison de dire que ça peut être très érotique, la parole. Là, il y a plus de peau dans les mots.
Vous avez écrit ce livre, j'en parlais au début, Anne Grimbert, dans le cerveau des comédiens. J'aimerais bien, rencontre avec des acteurs et des scientifiques, il était chez Olivier Jacob, j'aimerais bien que vous lisiez les premières lignes de ce livre, si vous voulez bien.
Je joue depuis 40 ans, me suis appelée de beaucoup de noms, me suis retrouvée dans la peau d'une vieille femme, d'une tortue, d'un tyran. J'ai fait mourir mon père des centaines de fois. J'étais analphabète, avocate, putain. J'ai senti le corset du 18e siècle me faire changer de pas. Un mois plus tard, je jouais une SDF et les gens de la rue s'écartaient de moi pour de vrai. Bien sûr, j'ai faim. Mais pour vous faire croire à ces histoires, pour faire vivre ces êtres de fiction, j'y ai cru, sincèrement, électriquement. C'est ça le job des comédiens, bien mentir. Et pour y arriver, on doit à un moment oublier que l'on ment. Sinon ça marche pas, l'incarnation resterait à mi-distance.
Oui, vous vous interrogez sur ce qui se passe dans la tête de vous-même et des autres. Donc vous avez été voir des scientifiques pour ça, Anne Grimbert.
On s'intéresse à ce qui se passe dans la tête,
Mais qu'est-ce qu'ils vous ont
voir les rois de la tête.
Certes, mais c'est un peu magique ce qui se passe dans votre tête en même temps.
Pas que la mienne.
Non, mais des comédiens.
Dans nos têtes à tous.
Oui,
c'est assez fantastique ce qui a l'air de se passer quand on joue la comédie. Mais peut-être qu'on a trop peu de temps pour commencer à...
Mais si, sur le faux et le vrai, jouer le faux...
Ça, en tout cas, par rapport au film de Arnaud, c'est très très intéressant, parce que je crois qu'il fait une enquête, une enquête pas policière, mais une enquête organique, sur cet homme, le héros, qui vit des histoires d'amour, et est-ce qu'il les vit pour écrire? Et donc est-ce que c'est une sorte de prédateur qui se sert d'un matériau pour en faire de l'écriture qui serait plus vraie que la vie, ou est-ce que il vit de l'amour et puis ça le fait écrire et tout est vrai? Et en fait, dans le petit extrait que vous avez passé, à un moment on l'entend dire
si c'est
de l'autobiographie, alors c'est pas de l'imagination. Oui, c'est de l'imagination, c'est pas de l'autobiographie. Ouais. En fait, ce que les scientifiques disent de façon très très sûre, c'est que ce qu'on vit, on l'imagine. Mm. Le cerveau ne fait qu'imaginer notre vie, et ce qu'on imagine, par contre, se réalise en nous. Donc, en ça, ton héros n'est ni dans un cas ni dans l'autre, il est dans les deux, il fait les deux à la fois. Et c'est aussi pour ça que je pense toutes les femmes qu'il a aimées d'amour et qu'il continue d'aimer par amitié, en entretenant ces liens-là, sont dans un lien très nourricier avec lui. J'ai pas l'impression de femme manger, mais plutôt nourrie d'estime. Et ce qui n'arrive pas à l'épouse.
Non.
L'épouse n'est plus nourrie. Elle a le bec ouvert et elle fait cuit.
Moi aussi, je suis une enfant.
Une enfant, tu dirais?
Je pense qu'ils ont été des enfants. Bien sûr qu'ils ont été des enfants. Ils se sont amusés. Il doit y avoir un poème là-dessus, mais j'ai oublié. Et puis voilà, tout d'un coup, ce droit à l'enfance, il lui refuse, il dit « on joue plus ». Elle dit « mais pourquoi on joue plus ?» Bien sûr qu'on joue encore. Et tout d'un coup... Et en même temps, c'est pas vrai, parce que la scène est déchirante. Et des fois, il joue un tout petit peu. Dans certains interstices de la scène, il joue un tout petit peu à fleur et moucheté. Et puis voilà que ça devient plus âcre, plus amer. Et puis que ça se termine, et lui quitte la pièce, et puis c'est terminé. C'est une très longue scène qui vient conclure le film avant son épilogue.
J'aime bien dans lui, vous dites, on joue souvent des choses difficiles et notre cerveau est content. En fait, le cerveau adore simuler la vie. C'est comme cela qu'il reconnaît la vie et qu'il fait connaissance avec ses propres forces ou ses propres failles.
Ce qui est arrivé, par exemple, dans le film de Arnaud, on aurait pu se dire, il est cruel avec moi ou je suis maso avec moi. Or, en fait, nos cerveaux étaient joyeux des chagrins qu'on était d'explorer et d'interpréter. Mais les cerveaux avaient du bonheur à s'enfoncer dans un moment un peu tragique que j'aurais pas aimé vivre, mais que j'aimais jouer. Mais parce que... Je sais pas, c'est comme dessiner. Moi, je dessine. Il y a des émotions qui peuvent être déchirante ou oppressante à vivre, mais si on trouve l'expression juste sur la feuille, c'est jubilatoire. Et ce qui était toxique ou dangereux de l'émotion devient même un ressort de vie et le pied.
Tromperie, le film sort mercredi prochain avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grimbert, Emmanuel DeVos, Rebecca Marder, entre autres. Vous restez
allez
avec nous
voir.
On écoute Joe Crooks, When You Were Mine.
Summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way, but someone better want me like that someday. Shoulder, smile with the bricks inside. But you and that guy.
Alors, on va parler des films qui sont. On va commencer par le film de Louis Garrel, La Croisade, avec lui-même et Laetitia Casta et Joseph Engel. Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce les objets les plus précieux de leur domicile. Ils comprennent rapidement que Joseph n'est pas le seul. Ils sont des centaines d'enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la planète. Garrel retrouve les personnages de L'Homme fidèle, son film précédent, un sujet à réflexion, l'amour, l'avenir du monde, dans un divertissement, un traitement léger, et un sujet donc imaginé par Jean-Claude Carrière, qui signe d'ailleurs avec ce film son dernier scénario.
Oui, ce sera effectivement le dernier scénario de Jean-Claude Carrière. À titre personnel, j'aurais peut-être préféré que ça soit un autre scénario qu'il signe comme son dernier, mais c'est comme ça. La vie est faite ainsi. Non, pour dire en tous les cas que c'est pas, je crois que lui-même l'aurait reconnu, c'est pas son plus grand scénario et c'est pas son plus grand propos de scénariste. Et c'est la poursuite effectivement d'une collaboration avec Louis Garrel qui a donné deux beaux fruits pour l'instant, je trouve, Les Deux Amis et L'Homme fidèle, vous le rappeliez. Celui-là me touche moins parce que cette espèce de fable écolo-bobo qui consiste à montrer que les parents sont en dessous de tout et que les enfants sont devant nous, mais à force d'être tellement énervants, ces enfants qui ont tellement raison sur tous les sujets, on se demande si au bout d'un moment on n'a pas envie un petit peu de bousculer tout ça, ce que ne font pas Carrière et Garrel avec une sorte de révérence du temps, de l'époque, à effectivement les enfants ont raison, nous avons tort, et avec une sorte de comme ça de vision un peu germano-pratine et bobo des choses, y compris de l'écologie, y compris des problèmes qui nous occupe tous en ce moment. Voilà, donc j'ai trouvé que le film était un peu en dessous de son propos et presque se s'auto-censurer par rapport à cette grande liberté qu'ont Jean-Claude Carrière et qu'avait Jean-Claude Carrière et qu'a Louis Garrel. Voilà.
Madeleine Collins, d'Antoine Barrault, avec Virginie Efira qui joue Judith, qui mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté, Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l'autre, Melville, avec qui elle a eu deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant. L'escalade vertigineuse. En fait, c'est une double vie au féminin. Est-elle folle, manipulatrice? Un suspense qui traîne longtemps entre ces deux vies largement exposées, peut-être un peu trop répétitive. C'est laborieux. Et lorsque la révélation arrive enfin, il était un peu tard, mais vous avez aimé plutôt, Laurent.
Bah oui, j'ai bien aimé, comme j'avais aimé le film précédent d'Antoine Barrault, qui s'appelait Le Dos Rouge, qui était tout à fait singulier aussi. Alors là, il y a des références qui plairaient, d'ailleurs certainement, Arnaud Desplechin, des références absolument explicites à Hitchcock, parce que qu'est-ce que vous voulez quand une héroïne s'appelle Madeleine, qui a deux personnalités, et un chignon, vraiment ne pas avoir vu un seul film de Hitchcock, et notamment Vertigo, pour ne pas savoir que Antoine Barrault, avec, mais vraiment de façon très assumée, sait où il va. Et quand en plus il confie à Romain Trouillet la BO du film et qu'elle ressemble bigrement à certaines musiques de Bernard Herrmann, tout va bien, on est en terrain connu. Mais là où ça ne serait que, et ça ne serait pas très intéressant, que de la répétition, que de l'hommage, que de la révérence-référence, il construit au contraire quelque chose que je trouve très intéressant, une réflexion qui là aussi devrait vous intéresser sur le mensonge, évidemment sur la double personnalité, et en convoquant notamment, et c'est un des charmes du film, un casting annexe très curieusement composé de Valérie Donzelli, Nadav Lapide, Jacqueline Bisset et Bruno Salomon, voilà un beau quadrige mais très 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 étonnant, et qui sert aussi l'héroïne du film qui est Virginie Efira, alors là qui est, bon c'est pas une beauté, qui est absolument parfaite dans ce rôle de Madeleine Collins. Non, véritablement, je trouve que le propos, y compris le propos cinématographique, d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé, mais le propos cinématographique est intéressant.
Mikey de l'Israélien Nir Bergman. Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste, Uri. Ensemble, ils vivent dans une routine coupée du monde réel, mais Uri est à présent un jeune adulte avec de nouveaux désirs et de nouveaux besoins, alors qu'ils sont en route vers l'institut spécialisé qui doit accueillir Uri. Aaron décide de s'enfuir avec lui, convaincu que son fils n'est pas prêt pour cette séparation. C'est une situation qu'a vécue la scénariste de ce film avec son père et son frère. Mikey est à la fois un mélodrame et un road movie dans lequel, c'est lui qui le dit, les personnages font un voyage intérieur, Laurent.
Oui, ce que moi je trouve très intéressant, c'est que c'est un mélo, c'est une base de mélo, c'est-à-dire effectivement ce père et ce fils autiste, ça pourrait vraiment sortir les violons et le pathos à tout bout de champ. Or, effectivement, le film n'est pas ça. Le film est une sorte de road movie assez tendre, de moments intensément vécus comme une séparation à venir, donc comme une sorte de dernier voyage dans l'enfance de l'enfant et dans l'enfance du père par rapport à ça. Et du coup, les rapports deviennent extrêmement complexes. Il n'y a effectivement pas de pathos. Il y a la convocation de Charlie Chaplin comme un univers, et The Kid évidemment, oui, comme un univers récurrent, référent, poétique, qui donne au film cette dimension-là, avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, et ça déserte donc en quelque sorte rapidement, ou de temps en temps, le pur mélo qui serait d'une pesanteur absolue, qu'on n'aurait presque pas envie de voir, mais le film dit autre chose et montre les choses autrement de ses rapports entre un père et son fils.
Nir Bergman, ça vous dit quelque chose à l'heure des pléchants? C'est un des créateurs de Beauty Pool, la série israélienne. Et donc vous venez de terminer, vous avez fait, vous participez à la deuxième saison.
Deuxième saison, oui, j'étais invité par Nakash et Toledano à participer à la deuxième saison.
Passionnant dans les deux.
Ah, j'ai appris énormément. J'ai pu jouer avec les acteurs, une actrice merveilleuse, Frédéric Perrault et Suzanne Lindon, qui étaient tous les deux admirables, et c'était formidable, formidable.
Il y aura aussi Emmanuel Berco.
Il y a Emmanuel Berco qui réalise un autre les épisodes avec un autre personnage.
Emmanuel Finkiel.
Il y a Emmanuel Finkiel et Agnès Jaoui.
Oui. On attend ça avec vraiment beaucoup d'impatience.
Une petite ressortie.
Oui, le lit conjugal de Marco Ferreri.
Le lit conjugal de Marco Ferreri, Marina Vladi, Ugo Tognazzi, et c'est une charge absolument virulente, violente contre la famille italienne et la conjugalité à la mode vaticane. C'est si vrai que le scénario sera saisi pour obscénité, que le film sera interdit en Italie, mais en revanche que le jury cannois ne s'y trompera pas en décernant un prix d'interprétation à Marina Vladi. C'est une charge qui reste assez actuelle et en tous les cas à la Ferreri, c'est-à-dire toujours très très réjouissante.
Elle utilise sexuellement son partenaire, quoi.
Exactement.
Voilà,
ça
très bien.
Un homme-objet.
Très très bien.
Voilà.
Il y a une revue de cinéma trimestrielle.
Oui, que Arnaud Desplechin connaît parce qu'il a déjà été interviewé pour cette belle revue qui s'appelle Réplique, dont la façon de faire, c'est de poser des questions à des acteurs, des auteurs du cinéma. Dans ce numéro qui vient de paraître, automne 2021, Patricia Mazui, notamment, et Damien Odoul, Michael Herz, répondent aux questions très très pertinentes, très cinéphiles, très creusées de cette jolie revue de cinéma. On sait bien que le cinéma et les revues même ne vont pas très bien en ce moment, c'est l'occasion de se précipiter sur Réplique. Voilà.
Super initiative de la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 3 janvier, Plein les yeux, saison 4, célèbre le grand spectacle sur l'écran géant. C'est super parce qu'il y a plein de gens qui pourront découvrir ces films. Laurence d'Arabie qui les ont vus sur petit écran, Laurence d'Arabie, Fitzcarraldo, Docteur Jivago, Barry Lyndon, Spartacus. Non mais c'est vraiment super.
C'est incroyable.
Vous savez pas quoi faire pendant ces vacances de Noël, voilà, à la direction de la Cinémathèque. On termine avec les cadeaux.
Mais oui, pour Anouk Grimbert d'abord, un film, In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Vous n'avez pas l'image, mais elle lève les deux bras au ciel de contentement. Bah oui, c'est une superbe édition. On a envie de dire, c'est peut-être l'édition finale. Je sais pas, il y en aura peut-être d'autres encore. Mais là, franchement, ce coffret Blu-ray où il y a 3 heures de bonus, donc de quoi se faire très plaisir. Un livret de 200 pages avec des photos à tomber et un texte intéressant. C'est édité par la Rabia. Bon, bah si vous cherchez un cadeau à faire en ce moment à des gens que vous aimez autour de vous, eh ben on vous le fait, ce cadeau-là, à vous, à nous, Grimbert, parce qu'on vous aime.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël, mais vraiment, c'est une très très belle édition. On est heureux de vous l'offrir.
Beaucoup.
Et puis alors pour vous, Arnaud Desplechin, on s'est dit quand même qu'il fallait contenter vos goûts personnels. Les aventures d'Antoine Donnel par François Truffaut qui viennent de ressortir en 4K, c'est-à-dire dans une merveilleuse restauration très très belle. Les 400 coups, Antoine et Colette, Baiser volé, Domicile conjugal, L'amour en fuite, et avec un petit bonus parce que c'est presque la préfiguration d'Antoine Donnel, Les Mistons bien évidemment, avec des heures et des heures et des heures là aussi de bonus. On revoit Truffaut interrogé par la télévision, etc. Bref, je pense que le truffaldien que vous êtes devrait être assez content de retrouver Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel.
En 4K, enfin, enfin.
Merci,
vous, merci, vous, merci, merci à tous les deux. Tromperie sort mercredi prochain, Arnaud Desplechin, avec notamment Anouk Grimbert. Ouais. Et vous signez Anouk Grimbert ce très beau livre, Dans le cerveau des comédiens, chez Odile Jacob. On va dire merci à notre belle équipe, à notre réalisateur David Leprince, à la préparation Christophe Magère et à notre superviseur musical Thierry Dupin. Joyeux Noël à tous. Au revoir.